8h. Enfin, c'est l'heure. Vous êtes conviés dans le bureau des commissaires.
Yeah! Salut Bruno Gervais.
Salut Bruno.
Bon matin, la gang.
Comment ça va, Bruno?
Hey, moi, ça va bien, vous autres.
Short night?
Très, très court, mon Gilbert. Très court, mais des fois, c'est pas la quantité, mais la qualité. Ah, des belles heures de sommeil.
Ouais, mais honnêtement, c'est pas tant la nuit en tant que telle qui me frustrante. C'est de dormir aussi peu de temps pour un match que le Canadien échappe comme ça en troisième période. Ouais. Moi, c'est ça qui me dérange là-dedans, Bruno. Le Canadien a joué un match qu'on aurait dû gagner. À qui t'attribues le plus de blâme? Les officiels ou Samuel Montembeault?
Ben, tu sais, c'est dur de... Moi, j'ai personnellement, comme athlète, j'ai bien de la misère à juste pointer du doigt un officiel pour un genre de match comme ça. Il y a tellement de choses que tu peux faire, t'as accordé, c'est quand même, c'est 6 buts. Oui, je comprends la fin, oui, je comprends la frustration. C'est dommage, on n'a pas pu le voir, cette vague-là d'avantages numériques là, qui avait changé un peu plus qu'une fois. Il y a un mélange de tout, mais c'est... Tu sais, j'étais d'accord avec les propos de Gallagher, j'étais d'accord avec certains propos qu'à un moment donné, dans ce genre de match-là, t'es rendu à 3, je pense, 4 ou 5 pénalités d'un côté, juste une de l'autre. Là, tu vas chercher un genre de pénalité comme ça. Habituellement, il y a une belle conversation entre les joueurs puis les officiels, surtout un vétéran. Tu sais, de lâcher un cadre comme ça de la sorte à ce moment-là, j'ai trouvé ça bien moyen. Mais il y a une accumulation de tout. Puis oui, je pense que le Canadien aurait eu besoin de cet arrêt-là. Tu sais, il y a eu des moments où tu aurais eu besoin d'avoir l'arrêt clé pour préserver ce point-là ou préserver la victoire là, à ces moments importants. Des fois, c'est pas le nombre d'arrêts que tu fais, mais c'est de faire le bon arrêt au bon moment dans ces moments clés-là.
Moi, je pense que l'arbitre, tu sais, il savait peut-être que ces calls-là ont été borderline, on s'entend, mais on s'entend qu'il peut pas, il changera pas. Il n'y a jamais un arbitre qui a reviré sa décision. Là. On s'entend, là. Puis si Josh Anderson avait... Il avait juste donné de la merde.
Verbalement.
You missed a couple of fucking calls or whatever, là, tu sais. Moi, je pense que ça aurait passé comme du beurre dans le poêle. Mais le fait qu'il a tapé son hockey sur la glace, Bruno, devant tout le monde, c'est comme un petit peu ridiculiser ou pointer du doigt l'arbitre. Puis ça, les gars aiment pas ça. Puis c'est un no-no, là, dans le fond, là.
Ben, exact. C'est là le contrôle. Tu sais, je pense que Josh Anderson, il a assez d'expérience derrière la cravate pour comprendre ça. Des fois, c'est le geste. Puis t'as raison que dans la vie de tous les jours, tu réagis devant une pièce pleine de monde puis tu cries du fond de la pièce. Des fois, cette personne-là va le prendre encore pire parce que là, tout de suite, tu vois que les yeux de tout le monde sont rivés là-dessus puis que ça t'expose, tu sais. De passer à côté ou de le voir ou de dire de quoi, ça va permettre à l'arbitre de faire « Hey, Josh, nanana », puis tu sais, d'avoir une conversation. Puis, Gilbert, c'est sûr que t'en as eu. J'en ai eu des conversations épicées avec des officiels, mais on restait entre les lignes. On était juste en désaccord
ben
avec
oui,
les affaires.
Le gars
va être capable, il va venir te voir. Puis des fois, les arbitres, on a entendu les joueurs parler qu'ils avaient admis que c'était une erreur sur la pénalité de Slavkovski. Ça arrive souvent, ça. Il y a une pénalité, puis là, tu vas le voir, tu dis, hey, Johnny, là, c'était pas, tu sais.
I missed that one, et tout ça. Mais tu sais, si tu lui donnes de la merde, puis tu le ridiculises, il te donnera pas un break, là.
Le problème avec tout ça, c'est que je pense que tout le monde s'entend. Tout le monde qui a regardé le match hier le sait que les arbitres n'ont pas été bons. Même les joueurs du Canadien dans le vestiaire le savent. À commencer par Cole Caulfield, qui a pas manqué de tact pour s'exprimer. Écoutons Caulfield rapidement.
Russ kind of took over the game there, and, kudos to them for winning it.
Les arbitres ont pris le contrôle du match et félicitations à eux pour l'avoir gagné. Quand tu tiens ce genre de propos-là, Tony, là, y a-tu des chances que le Canadien soit affecté par ça? Parce que Gallagher, après le match, n'était pas content. Martin Saint-Louis, après le match, n'était pas content. Cole Caulfield, après le match, n'était pas content. Y a-tu des chances que contre Vancouver, il reste un petit peu de mucus dans le fond de la gorge? Là?
Ben, j'ai une petite crainte face à ça. Parce que les arbitres, là, ils ont un petit égo. Là. C'est correct. Il y a personne qui aime ça se faire pointer du doigt. Moi, j'espère que ça suivra pas le Canadien trop longtemps. Parce que hier, là, c'était unanime, on pointait en direction des arbitres. Ce sont pas les seuls responsables de la défaite. C'est sûr qu'ils sont sous les feux de la rampe aujourd'hui, puis probablement que le call contre Slavkovski a fait balancer le match en faveur des Oilers hier. Moi, c'est juste ça qui m'accroche un petit peu. Mm-hmm. Moi, je veux pas que le Canadien passe pour les braillards de la Ligue nationale non plus. Ça, c'est jamais bon. C'est jamais bon. Une fois, c'est correct. La prochaine fois que ça va arriver, parce que ça va arriver qu'il y a des calls qui iront pas de ton bord, faut faut pas qu'on donne l'impression que hey, là, on a perdu à cause des arbitres.
Ouais. Je me souviens, il y a une couple d'années, en arrière du banc, Claude Julien était très vocal envers les officiels, puis c'était régulier. Là. On l'entendait souvent critiquer après les arbitres, puis je pense qu'il avait cette réputation-là au sein de la Ligue.
Je connais pas Martin Saint-Louis, par contre.
Des gars de même comme Claude, ou mettons, je te dirais même Michel Therrien, ils n'auront pas le bénéfice du doute de la part d'un arbitre. Là.
Mm.
Tu sais, Michel Bergeron est un petit peu comme ça aussi, très vocal derrière le banc, tout ça, dans le temps. Tu sais, il n'y a rien que tu peux faire. J'ai jamais vu un arbitre, puis je radote un matin, changer sa décision.
Ouais.
Alors, finalement, c'est pas avoir fait trébucher. Finalement, tu n'en as pas de pénalité. Tu changeras pas.
Mais tu peux quand même inciter l'officiel à te donner un avantage numérique, et c'est là-dessus que je veux vous amener.
C'est exactement le ça. Ça va être un even-up call un moment donné, puis continue à travailler fort, puis continue à bouger tes jambes, puis aussitôt, on le disait sur le banc, Bruno, rappelle-toi, là, the next one's gonna be on them. Parce que bouge tes jambes, ils vont t'accrocher, ils vont en coller une. C'est ça qu'il aurait fallu faire.
Oui, mais dans la vie, par exemple, tout se dit, c'est la façon de le dire. Puis oui, c'est vrai que j'ai jamais eu d'arbitre changer de décision sur le cas, mais il y a un élément de bâtir cette relation-là. Puis là, avec ce qui s'est passé hier, puis les gars, tu sais, Gallagher l'a mentionné, la température a levé un peu. Est-ce que les gars ont dépassé la ligne? Ils ont dérangé? Tu vas le revoir, cet arbitre-là. Il va revenir, tu vas avoir un autre match avec lui à un certain moment. Puis lui, il y a des chums dans la ligue, puis les gars là, vont entendre, tous les arbitres vont entendre les commentaires. Fait que oui, j'espère qu'ils vont tourner la page rapidement, mais t'as un élément là-dedans qui existe. Tu vois, moi, c'est un peu plus tard dans ma carrière. J'ai un entraîneur qui s'appelait Dean Chenette qui à un moment donné, il m'avait demandé, il dit, gars, avant chaque match, je veux que tu saches le nom des officiels, t'ailles serré la main, t'ailles jaser, si t'es croise une petite deux minutes de conversation, t'es juste bâti cette relation-là. J'étais un gars à tempérament assez calme, puis tu sais, qui était capable de. Je réagissais pas, mettons, dans l'émotion, tu sais, c'était très rare. Fait que souvent, tu vas voir l'arbitre, tu lui parles, hey, comment ça va, comment vont les enfants? D'un coup, tu apprends un peu sur lui, tu vois l'humain derrière, puis ça va loin, ça, tu sais. C'est le genre de choses qu'il faut que tu comprennes que le gars de l'autre passe, c'est un humain. Tu sais, dans la façon que tu vas dire les choses, dans l'approche que tu vas là, l'arbitre, là, jamais va rentrer dans un match avec l'intention d'en prendre le contrôle ou de faire, tu sais, de lui faire la différence. Ils savent, ils sont tellement coachés, ils sont tellement surveillés. Lui, il veut faire sa job comme il faut. Fait,
ouais.
Des fois, comme joueur, c'est d'avoir l'approche, je vais t'aider à faire ta job comme il faut. Ben, je sais que ça va vite. Puis, tu sais, des fois, il y a des programmes pour les jeunes là, d'aller faire les cours pour être un officiel. À un moment donné, tu réalises que ça va tellement vite que tu manques des cartes parce que tu avais un gars d'en face, t'étais pas là, t'étais pas sûr, t'as tourné la tête vite parce que est-ce que la bande arrive, puis je vais rentrer dedans, là, je m'en vais, oups, le gars est en train de tomber, qu'est-ce qui est arrivé? Ça va tellement vite que des fois, il faut juste que ton approche, dans la façon que tu vas le dire, c'est ça, c'est super important. Puis là, le Canadien a dépassé la ligne, des fois, ça va arriver, tu te fâches, tu dépasses la ligne. Il faut que, humainement, tu sois capable de te ramener, de dire, hey, Colin, je m'excuse, là, ou quand tu vas le revoir, de tout de suite, essayer de rétablir ce pont-là, parce que oui, il est humain. Puis oui, des fois, quand tu haïs quelqu'un, ben tu le surveilles un peu plus. Fait quand t'en as un qui chiale tout le temps, ou t'as une équipe qui sont tout le temps en train de chialer, de lâcher des câbles, ben tu vas être pas mal plus en train de regarder si son bâton il est là. Tu vas être content d'y remettre d'en face quand il va aller au banc des pénalités.
Quand tu chiales de même, en plus, tu bâtis une frustration. Là. Les gars, tu le sais, Bruno, quand t'es sur le banc, puis là, ça commence. Là. You fucking this. Puis là, on dirait que c'est une boule de neige, puis c'est dur à ramener. Puis là, tu t'oublies complètement qu'est-ce qu'il faut que tu fasses à la glace. Tu perds ton focus pour la game.
Je pense que ça, c'est arrivé hier.
C'est ça.
Mais je pense qu'il y aurait eu moins de frustration au sein du Canadien si eux aussi, ils avaient eu quelques avantages numériques. C'est le fait que non seulement il y a des calls douteux à ton endroit, mais tu as seulement une vague d'avantages numériques que tu as eu la chance de déployer une seule fois dans la rencontre. Et sur cette première unité-là, on a vu Ivan Demidov. Je trouve ça dommage parce que c'est zéro l'histoire aujourd'hui. On parle pratiquement pas des deux buts New York. On parle pas de la contribution du trio d'Evans qui a enfin marqué à 5-5. On parle pas des deux buts de Caulfield, dont un superbe but avec une belle feinte. Mais j'aimerais ça quand même qu'on en discute un mini peu du fait que Demidov était sur la première vague. C'est un changement quand même important pour Martin Saint-Louis. Aimez-vous ça, voir le 93 évoluer sur la première vague?
Moi, oui. Moi, j'aimais ça. Mais c'est sûr, tu sais, Bolduc venait de marquer. C'est un bon tireur. Des fois, tu as assez différentes combinaisons. Jouer la position du joueur pivot, il y a tellement un synchronisme qui est important. Il faut que tu bouges tes pieds. Tu es tout le temps en train de supporter. Puis, tous les jeux dans les espaces restreints, c'est bien important. Il faisait. Tu voyais qu'il y avait certains patrons. Il y a certains moments, c'était un nouvel environnement. Il y avait une hésitation de début de saison, une nouvelle cohésion. Fait que c'est normal. Mais de voir le gaucher Demidov, qui, avec Hotsun, on l'a vu là, pendant le match à Montréal, cette espèce de synergie-là entre ces deux gars-là, la création, que les deux bougent les pieds pour se libérer l'un pour l'autre, ça, je trouvais ça intéressant. Là, tu as mis Slaf dans l'espèce de position bumper qui descend au filet. Puis, tu sais, vous avez vu la passe qu'il a faite transversale hier. Moi, quand on a vu sur le jeu, puis après ça, à la reprise, j'ai comme l'impression que même Suzuki a fait le saut. Tu sais, ça a comme pris une demi-seconde de plus pour qu'il entende son mouvement prendre un tir. Ça aurait été dur de faire un tir sur réception, mais tu sais, d'attraper la rondelle puis de tirer très rapidement, on dirait qu'il a comme fait le saut. Fait que ça va prendre un petit moment, mais je trouvais ça super intéressant de les voir ensemble sur cette vague-là. C'est un gars, tu sais, avez-vous vu la première entrée de territoire qu'il a faite? Il s'est comme fait isoler. Là, il se retrouve un peu dans le trouble. Tu sais, tu te fais isoler. Le défenseur a un bon gap. Il vient le fermer sur la bande. Puis, derrière lui, avec son bâton, il va chercher la rondelle. Puis, il réussit à sortir du jaune pour faire une passe à son joueur. J'ai fait « wow, le tabarouette ». Ça, c'est le genre de jeu qui va donner des deuxièmes puis troisièmes vies à l'avantage numérique. Puis, si t'es un joueur du Canadien, t'es un Caulfield, Suzuki, Hudson, Slap sur cette vague-là, faut tout le temps que tu sois prêt à recevoir la rondelle.
Mais
t'es un magicien avec ça.
Oui, mais hein, parce que Demidov, je pense que présentement, peut-être que le synchronisme n'est pas à point, mais éventuellement, ça va cliquer, puis pas à peu près, sur la première vague de l'avantage numérique. J'espère qu'on va, rien contre Zach Bolduc, là, qui, je pense, va avoir une super belle saison aussi avec le Canadien. J'espère qu'on va le signer à long terme. Mais je pense que Demidov a sa place sur la première unité. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Ça prend des résultats cette année.
Exact. On est là pour gagner.
C'est pas le temps de faire des expériences. Ça prend des résultats.
Je suis d'accord avec toi, Gilbert. Hey, j'ai une bonne question pour vous. C'est un débat qu'on a eu hier sur le podcast Radar, qui est disponible sur toutes les plateformes de la Commission athlétique. Puis honnêtement, elle n'est pas si simple que ça. Je la pose tout de suite, mais on répond après la pause. Qui a le plus de chances de participer aux Jeux olympiques? Nick Suzuki ou Cole Caulfield? On y répond dans deux minutes. Ouais, hier, sur le podcast Radar, on en est venu à ça, parce qu'on se promène un peu partout, on sort du coq à l'âne, puis on s'amuse, puis on couvre un peu n'importe quoi. Puis on est tombé sur la question suivante. Qui a le plus de chances de participer aux Jeux olympiques? Cole Caulfield ou Nick Suzuki? Bruno?
Tabarouette, j'ai la misère à séparer entre les deux. Je pensais pendant la pause, puis tu sais, je regardais dans les deux équipes, il y a comme des joueurs qui ont été là. Exemple, si je me fie sur les quatre nations, que tu peux penser, avec le départ canon de ces gars-là, puis la fin de saison de l'année passée, c'est depuis les quatre nations, dans le fond, là, c'est deux gars qui se sont placés sur la map. Fait que, mais si j'ai à choisir entre un des deux, elle est difficile parce que, tabarouette, j'aurais quasiment le goût d'y aller avec un Suzuki par le fait que quand tu bâtis comme ça, tu sais, Cole Caulfield, c'est un marqueur élite. Mais Suzuki, il va t'aider à marquer, à fabriquer des jeux. Tu peux le mettre sur la glace pour bien des missions. On l'a vu jouer à certains moments, même en désavantage numérique. Il y a un jeu de 200 pieds.
Oui, mais Caulfield, de plus en plus aussi. Là. Ouais, Caulfield s'améliore sur le 200 pieds.
Ouais, mais Suzuki, il tue des punitions. Il prend des face-offs.
Oui, je suis d'accord, mais Caulfield, c'est plus le marqueur unidimensionnel. Non. Qu'on dit que s'il ne joue pas sa première unité de l'avantage numérique des Américains, il est inutile.
Je sais, mais il en amène-tu plus au moulin dans la game complète que Suzuki?
Pas ça, j'ai dit. Je te dis juste que c'est plus un marqueur.
C'est un peu ça que tu as dit.
Non, je te dis juste que c'est plus un marqueur unidimensionnel.
Non, je sais, je suis d'accord avec toi. Mais, tu sais, Nick Suzuki, est-ce qu'on peut chialer sur la façon qu'il joue, il se présente à tous les soirs, il produit, il est bon défensivement, il tue des punitions, il prend des face-offs.
Ah, mais les deux peuvent être vrais, là.
La question qu'on peut rajouter là-dedans,
ça dépend de ce qu'on a besoin. On a-tu besoin d'un sniper? On a-tu besoin d'un sniper? Parce qu'on a, des gars comme Nick Suzuki dans l'équipe américaine déjà, ou, tu sais, Suzuki sera pas dans l'équipe américaine, va être dans l'équipe canadienne, mais Caulfield dans l'équipe américaine. Tu comprends? Je veux dire, un style de jeu comme Suzuki dans l'équipe américaine, puis on n'a pas besoin d'un Suzuki, mais on a besoin plus d'un marqueur. Peut-être. Mais,
si tu compares les deux formations, Gilbert, moi, je pense que la formation, aussi incroyable que ça puisse paraître des Américains, est plus dure à percer que celle du Canada. Aussi incroyable que ça puisse paraître.
Mais ça dépend quel genre d'équipe qu'ils vont vouloir faire. Bon, on a entendu Bill Guérin un peu parler là-dessus à Hudson, parce que je vais te nommer des noms. Vincent Trocheck. Là, t'as les deux Kachuk qui sont maganés. L'état de santé va vraiment faire varier cette réponse-là. Brock Nelson, T'as JT Miller, qui, oui, c'est un bon joueur, mais début assez tiède. Chris Kreider. Fait que t'as bien des trous comme ça. Puis après ça, t'as des excellents joueurs. T'as des Jack Eichel, les Ganzel.
Ouais. Oubliez pas que Kyle Connor était sur le banc l'année passée pour le match décisif. Là. Il n'était pas habillé.
Il leur manquait des buts. T'sais, il leur manquait des buts. Fait que eux autres, ils ont bâti un peu plus une équipe qui était gros, tu sais, des gros gabarits, un peu plus physique. Là-dedans, tu as besoin d'un élément de cette touche-là de marqueur. Fait que, moi, je vois Caulfield rentrer sur cette équipe-là sans problème. Mais je vois Suzuki rentrer sur l'autre équipe, sur l'équipe du Canada, sans problème aussi. Il y en a des gars qui étaient des bons joueurs. Puis, tu sais, Hagel, il y a eu une saison extraordinaire l'année dernière. C'est différent cette année. Tu as une couple de gars que tu te dis, tabarouette, ça va être un peu plus dur, moi, je pense, pour un Suzuki de rentrer avec l'expérience qu'il y a là, les vétérans qui sont là, puis c'est un peu plus dur de cibler un gars que tu vas tasser. Mais Anthony Cirelli puis un Hagel, qui ont été très bons, là, t'as leur entraîneur qui a été impliqué, mais c'est sûr qu'un Suzuki, avec le jeu, parce que Suzuki, son jeu sur 200 pieds, de plus en plus, son nom est mentionné dans l'élite de la Ligue pour ce jeu-là sur 200 pieds. Caulfield est bien meilleur, mais c'est pas ton premier réflexe de l'envoyer quand tu mènes par un but. Tu sais, il est meilleur qu'il était, mais on peut pas dire qu'il est dans l'élite de la Ligue nationale. Fait que c'était pour ça que je pensais un peu vers Suzuki, mais je regarde les deux formations, puis d'essayer de trouver un gars. Tu sais, y a des gars comme des Bennett, des Konechny, des gars un peu plus qui sont derrière là, les grandes vedettes. Mais c'est un peu plus dur à tasser pour moi du côté canadien. Mais je vois les deux joueurs faire ces équipes-là.
L'affaire qui me chicote un peu dans ce que tu viens de dire, Bruno, c'est que tu as dit que Caulfield n'est pas encore dans l'élite de la Ligue nationale. L'année passée, quand ils ont remis les formations...
Défensivement.
Excuse-moi.
On est beaucoup meilleur.
Parce que le marquer des buts, là, c'est pas facile à faire. Puis l'année passée, quand on a remis les formations américaines, c'était le meilleur buteur américain. Puis au moment où on se parle, en ce 24 octobre, il y a une couple de gars à ses buts, dont Cole Caulfield, tête de la Ligue. Fait qu'à un moment donné, il va falloir reconnaître que il est peut-être petit, le 13, mais Colin, il amène dans le filet. Mm-hmm. Puis pas des buts peureux, là. Non. Des vrais buts de scoreur.
Ouais, il joue très bien. Puis il mérite beaucoup d'hommages pour ce qu'il fait cette année. Puis tu sais, pour Équipe Canada, là, ça sera pas facile quand tu gagnes la confrontation des quatre nations de faire des changements puis de dire à des vétérans comme Brad Marchand ou Joe Dowdy, ou peu importe, même les gars qui ont fait partie du processus pour gagner, ouais, finalement, on vous amène pas à Milan. Là.
Ouais.
Ça va être intéressant de voir ça.
Konechny, Jarvis.
Moi, je pense que Suzuki est en avant de ces gars-là.
Ben, moi aussi.
Scheifele aussi. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir. L'autre question qu'on avait dans le podcast hier, c'est est-ce qu'un Tom Wilson a sa place? Après t'être fait brasser par les Américains, est-ce qu'un Tom Wilson a sa place dans un contexte de hockey international? Tu sais, il y a une couple de facteurs qui rentrent en ligne de compte.
Sur une patinoire nord-américaine, faut pas l'oublier.
Petit patinoire, là, par exemple.
Non, je sais, mais c'est que les arbitres ont le sifflet plus rapide puis pas mal plus sévère.
Ça,
parce
c'est vrai.
Fait qu'il y a une couple de facteurs, ça va être intéressant de voir. Est-ce qu'un Noah Dobson a sa place? Un droitier sur la formation canadienne. Moi, je prendrais pas. Je dirais pas non à Dobson de la façon qu'il joue présentement. Ça va vraiment être intéressant à voir. Ça s'en vient plus tôt que tard, la remise des formations en vue des Jeux olympiques. Je regarde présentement sur la messagerie texte parce qu'on appartient à un sondage là, qui a le plus de chances de représenter son pays aux Olympiques. Suzuki, 80%.
Ouais, je pense que ça, c'est normal. Mais c'est juste le fait qu'on pose la question, ça en dit long sur la qualité du rendement de Caulfield présentement.
Mais Suzuki coche plus de cases.
Oui,
je suis d'accord.
C'est ça.
Question comme ça, vous autres le savez-vous? Parce que moi, à y penser, je pense que Caulfield a plus de chances, si j'avais à bêter, qu'il fasse l'équipe des Américains avec les besoins et ce qu'il amène. C'est-tu une patinoire grandeur Ligue nationale ou c'est une patinoire grandeur internationale?
85 par 200, une patinoire normale.
Oui, une patinoire normale. Ouais. Mais tu as raison, parce qu'au niveau international, la façon que les arbitres sont impliqués, puis on le vit à chaque année au championnat du monde junior, l'élément robustesse est très, très dur à amener. Ça sera pas comme ce qu'on a vu au Centre Bell entre les deux équipes. C'est pas comme ça. Puis je pense que les Américains, ils manquaient un peu de vitesse dans leur formation. Ils manquaient de cette touche-là de marqueur. Mais ça va être le fun. Ça va être le fun.
Merci Bruno, puis bon week-end.
Hey, bon week-end, la gang.
Salut.
Bon week-end et surtout un bon match de baseball ce soir. Ouf, début de la série mondiale. Dodgers, Blue Jays.
As-tu été bon, ça? As-tu vu le prix d'étiquette?
Oui, je l'ai vu. Pas de bon sens.
En arrière du backstop, là, 19 000 $. 19 000 $, l'étiquette.
Non, mais j'en ai une bonne pour toi aussi.
38 000, vous y allez à deux, là. Avant Amélie, là, c'est un beau cadeau de noces.
Ouais, ben oui.
Il y a beaucoup de fausseté dans ce que tu viens de dire. On se calme un peu, là.
Moi, j'en ai une bonne pour toi. Il y a un auditeur qui nous a envoyé une petite note Tu sais qu'il y a un Marriott dans le centre Roger.
Ouais, ouais.
Il reste une chambre avec vue sur le terrain présentement.
How much?
8 500 $ la nuit.
Ben, toi, 1 500 $, t'invites 25 chums.
Non, non, t'amènes ta blonde, hein, même toi, tu regardes la game, tout est beau, t'as payé 8 500, puis wine and dine, puis toute la patente. Là.
Ouais, mais c'est un leaking.
Puis là, là, tu couches mon Tony, puis là, oh, je sais pas ce que j'ai, mais ça sent trop plein la soirée, puis je file pas. Mais...
c'est impossible.
Ce qu'il faut pas attendre, incroyable. Mark Griffin dans 2 minutes.